Alors, cette conférence a pour point de départ l'amnésie collective qui a longtemps entouré l'histoire de l'esclavage, à la fois dans les pays où l'esclavage était pratiqué sur le territoire national, comme les États-Unis, mais également dans ceux où il n'a pas été pratiqué sur le territoire national, mais où le commerce maritime a prospéré et où l'on s'est enrichi grâce au travail des esclaves, notamment dans les plantations de la Caraïbe. C'est le cas de l'Angleterre, mais c'est également le cas de la France. Et cette histoire de l'esclavage qui a émergé peu à peu, elle a mis un certain temps à laisser émerger. Alors on a mis en avant le travail des abolitionnistes et la façon dont les abolitionnistes ont mis fin à l'esclavage progressivement. Mais il a tardé, cette histoire plutôt a tardé à faire émerger d'autres voix oubliées, et notamment celle des esclaves. Or, depuis les années 1960, aux États-Unis, mais aussi en Angleterre et en France, une nouvelle histoire a commencé à s'écrire en marge de l'histoire existante. Dans les arts, mais aussi en littérature, un nouveau genre est apparu et a commencé à sonder les infractuosités de cette histoire en creux. En littérature, c'est ce qu'on a appelé la littérature du passage du milieu, « the literature of the middle passage ». Pour commencer, j'ai choisi deux images, ou plutôt un tableau et une image. Le premier, c'est le célèbre tableau de Turner, le peintre anglais des paysages marins tourmentés. Et ce tableau s'appelle « Slavers throwing overboard the slaves, typhoon coming on ». Il est plus connu également sous le nom plus court de « The Slave Ship ». Ce tableau date de 1840 et représente des esclaves qui sont jetés par-dessus bord. Et il s'inspire d'un fait réel, d'une histoire qui s'est réellement passée. Une centaine d'esclaves embarqués de force à bord d'un bateau nommé le Zong, bateau négrier, ont été jetés à bord. La décision de les jeter par-dessus bord, alors qu'ils étaient encore vivants, a été prise par le capitaine suite à une épidémie, puisque pour le capitaine, il s'agissait de juguler, d'enrayer l'épidémie, de protéger les membres de l'équipage, mais également de faire en sorte que si ses esclaves allaient mourir, il allait perdre sa marchandise précieuse, tandis que s'il les faisait jeter par-dessus bord, il pourrait toujours essayer d'avoir des dédommagements de la part des assureurs. Et donc c'est la solution qu'il a choisi. Il a préféré faire jeter ses 131 esclaves par groupe de trois par-dessus bord, de manière à pouvoir toucher cet argent. Par ce tableau, Turner a cherché à alerter l'opinion publique quant à la condition et à la détresse des esclaves. Et ce tableau, il a connu une histoire assez intéressante et assez complexe, puisqu'il a eu deux vies. En Angleterre, il a été assez mal reçu. Et les critiques d'art, notamment, ont reproché à Turner d'avoir pris certaines libertés avec l'exécution du tableau, notamment lorsque vous voyez au premier plan ces chaînes au niveau de la jambe qui flottent. Vous voyez des chaînes qui semblent défier la pesanteur et flotter au lieu de sombrer au fond de la mer. On lui a reproché également l'exécution, parfois très approximative, de poissons qui ressemblent plus à des créatures fantastiques qu'à de véritables poissons. Et puis enfin, on lui a reproché la composition, les nuages qui s'amoncellent au fond du tableau et qui donnent l'impression finalement que ce bateau va voguer à sa perte, comme si un châtiment divin allait punir le capitaine et les membres de l'équipage. Et puis ce tableau, il a été envoyé aux États-Unis, et là, il a été encore plus mal reçu, comme on peut l'imaginer. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fois, de la part des critiques d'art, on a reproché à Turner de ne pas de ne pas représenter la nature aussi bien qu'il le pourrait, la nature étant quelque chose de beau et d'harmonieux, et il a en quelque sorte gâché son tableau avec ces morceaux d'esclaves. Et c'est assez intéressant de replacer justement la lecture qu'on a pu avoir du tableau à l'époque avec le souci éthique qui serait le nôtre à l'époque actuelle. Et je reprendrai cette thématique par la suite. La mémoire et la réception de quelque chose, c'est toujours quelque chose qu'il faut recontextualiser à un moment donné et dans un contexte historique précis. Donc je reviendrai sur ce tableau plus tard. L'autre point de départ, c'est cette photo d'un mémorial qui s'appelle Cap 110 et qui se trouve dans la commune du Diamant en Martinique et qui commémore un autre naufrage, celui d'un bateau survenu en 1830 et à bord duquel des esclaves enchaînés ont péri. Et ce qui m'a semblé assez intéressant comme point d'entrée dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que derrière ces deux clichés, le tableau et le monument, se profile une réflexion en creux sur la mémoire, sur ce qu'elle est, mais aussi sur ce qui fait la mémoire, la façon dont la mémoire individuelle rejoint la mémoire collective, ou plutôt la façon dont l'une imprime sa marque sur l'autre. En effet, la mémoire individuelle n'échappe jamais totalement à la mémoire collective, et la mémoire collective, ce n'est jamais l'agrégat simple des mémoires individuelles. Il y a toujours une sorte de va-et-vient et de négociation entre les deux. Cette idée de négociation et d'évolution, mais aussi de cheminement de la mémoire collective, et par conséquent de son impact sur la mémoire individuelle, c'est un leitmotiv des histoires dites subalternes, qui ont eu du mal à émerger, et qu'il convient de revisiter à mesure que le temps de l'oubli se meut en une sorte de temporalité du pardon, et surtout à mesure qu'il devient possible d'aborder certains sujets. On se souvient que certains épisodes de l'histoire ont mis un certain temps à faire surface. Par exemple, l'histoire de la collaboration en France a mis un certain temps à émerger. Il a fallu que l'histoire de la résistance lui fasse un petit peu plus de place. Et pour donner un autre exemple, emprunté aux guerres coloniales, le conflit et la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui a mis un certain temps à émerger dans la mémoire collective en France, et notamment dans les mémoires, dans l'histoire officielle, encore de façon encore plus évidente dans la mémoire scolaire, puisque c'est quelque chose qui est rentré dans les programmes scolaires très tardivement. Et comme il se trouve que je suis née au siècle dernier, je me souviens que lorsque notre enseignante en classe de première nous a parlé pour la première fois de la guerre d'Algérie, elle était très émue puisqu'elle me disait « c'est la première fois que j'ai le droit de vous enseigner cet épisode très, très sanglant de l'histoire de France ». Voilà. Donc la mémoire, c'est quelque chose qui évolue, que les historiens font évoluer, que les chercheurs contribuent à faire évoluer, mais finalement, ça nous pose une question, ça nous amène à nous poser la question suivante, dans quelle mesure nous ne devons pas périodiquement revisiter notre propre mémoire individuelle, le souvenir que nous avons, des cours plus ou moins lointains d'histoire que nous avons écoutés avec plus ou moins d'attention, parce qu'effectivement, la mémoire, c'est quelque chose qu'il faut réexaminer de façon critique à un intervalle de temps régulier et de façon répétée. Donc c'est au regard de ce droit à la mémoire, à la fois évident mais qui ne va pas de soi, qu'il convient périodiquement de repenser l'histoire et de revisiter sa mémoire individuelle au regard des changements de la mémoire collective. Le droit à la mémoire, c'est donc transformer la lettre morte de l'histoire officielle en une mémoire vive. C'est travailler les infractuosités, c'est sonder les cavités de la mémoire collective officielle et son processus de sédimentation officialisée. L'historien Pierre Nora a d'ailleurs parlé de vigilance commémorative, afin de souligner le fait que la mémoire n'est pas quelque chose d'acquis, la mémoire ne va pas de soi, elle ne se crée pas spontanément. Elle est cimentée par une sorte d'institutionnalisation, et c'est ce qu'avait déjà expliqué avant lui Maurice Halbwachs dans les cadres sociaux de la mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans institutionnalisation de la mémoire, par la mémoire qui est enseignée à l'école, par les commémorations, par des cadres sociaux de la mémoire. Mais c'est aussi quelque chose que les théoriciens des études postcoloniales ont pu constater, car dans le contexte colonial, l'histoire du colonisateur se substitue très souvent à l'histoire du colonisé, souvent orale, souvent précaire, et donc plus facilement balayée ou laissée de côté. Et c'est ce qu'ont montré les grands théoriciens des études postcoloniales, et notamment des gens comme Albert Memmi dans « Portrait du colonisateur, portrait du colonisé ». Ou Goody dans The Theft of History. C'est donc une sorte de conscience du passé qu'il convient de réactiver. L'histoire est dans le passé, mais la mémoire, c'est cette prise de conscience dans le présent de ce passé dont nous sommes les dépositaires. Parallèlement à cette vigilance commémorative dont nous parle Nora, il convient, me semble-t-il, de faire émerger une sorte de contre-vigilance aux amnésies statutaires de l'histoire, En effet, suivre les commémorations officielles, c'est s'en remettre à une partition qui orchestre la mémoire collective. Or, il est nécessaire que les historiens sondent cette mémoire collective et fassent émerger les éloquentes absences du discours officiel. Si l'on retourne à l'histoire de l'esclavage, il convient de ne pas s'arrêter au combat des abolitionnistes. Il faut se rappeler qu'avant de commémorer la fin de l'esclavage, il faut surtout faire face à l'épisode peu glorieux et plus douloureux des débuts de l'esclavage. Il faut, et c'est le sens du tableau de Turner, prêter l'oreille aux cris jamais entendus, faire émerger les récits non écrits de ces gouffres de l'oubli, des vies précaires. Et lorsqu'on regarde ce tableau de Turner, on est invité à réfléchir au choix du moment. Non plus le moment où le bateau résonne des cris des esclaves sur le point d'être jetés à la mer, des esclaves qui se débattent, qui sont battus, qui sont violentés, mais les cris de détresse en passent d'être étouffés à mesure que les corps coulent, emportés par les lourdes chaînes, que les visages sombrent et que les bouches sont envahies par l'eau salée de la mer. Donc comme je le disais tout à l'heure rapidement, en préambule, le cas de l'Angleterre est assez intéressant puisqu'il se situe à un point stratégique. L'Angleterre n'a pas pratiqué l'esclavage sur son territoire national de façon directe, mais dans ses plantations, mais son commerce s'est enrichi de certains produits. Et dans ses rues, au XIXe siècle, et au XVIIIe siècle, et notamment si on regarde l'histoire de grands ports comme Liverpool, d'où sont partis beaucoup de bateaux dans le cadre de cette traite et du commerce triangulaire, on pouvait sentir dans les rues de Liverpool le parfum agréable du chocolat, du café, du sucre, du thé, du tabac. Mais comme nous le suggère l'écrivain Fred Daguerre, il y avait d'autres odeurs moins agréables, celles des cales dans lesquelles les esclaves étaient confinés dans des conditions pitoyables d'hygiène et de santé. Donc ça, c'est un extrait de son roman Feeding the Ghost, sur lequel je reviendrai par la suite. Et justement, Fred Daguerre met en avant le fait que derrière cette espèce de façade olfactive très agréable, finalement, on peut faire une sorte de cartographie de l'esclavage en remontant à l'empreinte laissée, au non-dit, aux choses agréables qui cachent la mort d'esclaves dans des lieux forcément qui restaient cachés du grand public. C'est donc aussi une histoire où les monuments à la gloire des abolitionnistes cachent une autre réalité, la cécité sélective à l'égard des esclaves, l'amnésie collective institutionnalisée. Et c'est cette histoire que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, cette histoire en marge de l'histoire officielle et qui parvient à s'y inscrire à la faveur du temps qui passe. À travers l'émergence de cette nouvelle mémoire de l'esclavage, on cerne bien les difficultés qui sont liées à son apparition, à sa formation, mais aussi à sa crédibilité. En effet, des questions d'intérêt, et je vous parlais de l'intérêt économique du capitaine qui a fait jeter les esclaves à la mer lors de l'épisode dramatique de Zong, mais également des questions d'authenticité. Plusieurs récits d'esclaves ont été écrits au XVIIIe siècle, dont je vous parlerai, mais on a eu des doutes quant à l'authenticité de ces récits, et on s'est demandé à un moment donné si les abolitionnistes n'avaient pas aidé les esclaves va produire ces récits documentés de leur histoire personnelle. Donc l'authenticité même de ces documents a été mise en question, ce qui explique aussi que l'histoire est tardée à faire émerger cette nouvelle histoire. Donc c'est dans ce contexte qu'est apparue ce qu'on appelle la littérature du passage du milieu, ou en anglais « Literature of the Middle Passage ». Et on peut distinguer plusieurs phases. Tout d'abord, ce qu'on a appelé « The Antebellum Slave Narratives », qui ont été écrits au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle par d'anciens esclaves, des esclaves émancipés. C'est le cas notamment du récit de Olaudah Equiano ou encore de Cugano. Et ces récits sont de véritables récits, de véritables documents. Ce ne sont pas des textes de fiction, ce sont des récits autobiographiques écrits à la première personne par des esclaves. Et puis, dans les années 1960-1970, aux États-Unis, il y a eu toute une vague de romans qui se sont présentés comme des récits d'esclaves. Ça a été le cas des textes suivants, dont certains sont très connus, comme celui de Ernest Gaines, Autobiography of Miss Jane Pittman, ou encore le célèbre roman de Toni Morrison, Beloved. L'apparition de cette littérature, elle est aussi à replacer dans un contexte plus large. Elle a coïncidé avec un intérêt des historiens à l'époque pour les histoires dites subalternes. Et c'est aussi à cette époque que l'on s'est penché sur l'histoire des femmes, l'histoire des peuples colonisés, l'histoire des minorités. Il y a eu également cette mouvance en histoire qu'on appelle l'histoire subalterne sous l'impulsion d'historiens d'origine indienne qui ont montré que finalement l'histoire c'est souvent quelque chose qui est écrit par des hommes de classe moyenne, blancs, western, occidentaux, et qu'en marge de cette histoire il convient de tourner un petit peu les binoculars, hein, les jumelles dans l'autre sens pour aller scruter l'histoire de l'Occident et puis déplacer le point de vue et faire émerger un point de vue différent, un point de vue subalterne. Et puis de façon assez caractéristique, dans le cadre du contexte américain, bien sûr, vous remarquez que les années 1960, c'est aussi le mouvement du Black Consciousness Movement et un mouvement de prise de conscience et de montée en force et de regain d'intérêt aussi de la population, alors à la fois de la population afro-américaine, mais également de la population dans son ensemble pour une autre perspective sur le terrible épisode de l'esclavage. Le troisième temps de cette littérature, il a lieu dans les années 1990 au Royaume-Uni avec des écrivains comme Carol Phillips et Fred Daguerre. Donc Carol Phillips est un écrivain d'origine caribéenne, originaire de St. Kitts et dont la famille est venue s'installer dans le nord de l'Angleterre quand il était encore bébé, donc il est britannique, mais avec une connexion très forte et un lien très fort avec la Caraïbe. Et il a traité à trois reprises dans son œuvre de cet épisode du passage du milieu, tout d'abord dans son roman Cambridge, mais également dans une pièce de théâtre Rough Crossings, et enfin dans le roman qui est au programme de la Grecque pour 2 ans, Crossing the River. L'idée de traiter de cet épisode dans son roman Cambridge lui est venue en lisant le journal d'une jeune écossaise, d'une jeune aristocrate qui s'appelait Janet Shaw, et en découvrant le journal de cette personne, il a fait connaissance avec toute une littérature, il s'est aperçu qu'il y avait toute une littérature écrite à l'époque et souvent par des femmes voyageuses, et qui avaient un autre regard, une autre perspective finalement que ces hommes souvent qui avaient des intérêts dans les structures de pouvoir et qui peinaient parfois à laisser entendre un autre son et une autre voix, une autre perspective. Et il y a eu toute une période de flottement en quelque sorte entre 1807 et 1834, puisque 1833 c'est l'abolition de l'esclavage dans les territoires britanniques, mais justement il y a eu tout un moment où on continuait parfois à utiliser des esclaves. L'autre romancier, Fred Daguerre, a écrit je voulais dire aussi deux mots de Crossing the River. C'est un roman qui entrelace plusieurs trames narratives autour d'un cadre constitué d'un prologue et d'un épilogue dans lequel le personnage est un père de famille qui se repent d'avoir vendu ses enfants suite à de mauvaises récoltes. Il a vendu ses enfants qui sont devenus esclaves. Et dans ce roman, on a plusieurs trames narratives qui tournent toutes autour du thème de l'esclavage. L'une d'entre elles est assez intéressante, enfin, les quatre sont très intéressantes, mais l'une d'entre elles interroge en quelque sorte notre curiosité, puisqu'il s'est inspiré du journal de quelqu'un qui faisait justement le commerce des esclaves, John Newton, et c'est de ce texte que lui est venue une sorte d'inspiration pour l'un des récits de ce roman. Et ce qui l'a intéressé à la lecture du journal de John Newton, c'est d'essayer de comprendre comment cette aberration éthique qu'a été l'esclavage a pu se produire. Et ce qui l'a profondément bouleversé à la lecture de ce texte, c'est de voir comment chez une même personne, John Newton, on pouvait avoir une extrême sensibilité. Alors il y a des courriers à sa femme dont il était follement épris, et puis à la fois cette espèce de façade insensible au devenir des esclaves qui n'étaient pas considérés comme des personnes dignes d'empathie. Et donc il a voulu comprendre cette espèce d'énigme éthique que représente le fait même de l'esclavage. Et on peut également citer David Debedin et sa collection de poèmes Turner, qui là aussi s'inspire du tableau The Slave Ship de Turner que je vous ai montré. Donc on s'aperçoit que cette mouvance, elle ne se limite pas à des romans, mais elle englobe également des poèmes et des pièces de théâtre, même si ce sont principalement des romans. Il y a d'autres genres littéraires qui sont représentés. Et puis bien sûr, il y a d'autres écrivains comme Marlene Norbert et Philippe au Canada, qui a écrit tout un poème très long, qui fait la taille d'un livre et qui s'appelle Zong, donc là aussi en référence à l'épisode du Zong. Et puis cette littérature, elle a eu aussi son pendant dans l'ère de la francophonie, avec des écrivains comme Maryse Condé notamment, qui ont écrit sur ces problématiques-là. Donc il y a tout un pendant à la littérature du passage du milieu dans l'ère francophone. Alors c'est ce qu'on appelait aussi ces neo-slave narratives, on parlait tout à l'heure de neo-history. Ces neo-slave narratives sont définis par le critique Ashraf Rushdie comme des romans contemporains qui adoptent la forme et les conventions ainsi que la narration à la première personne des récits d'esclaves archétypaux. Et un autre élément qui est à souligner, c'est l'importance de la voix. Ces récits sont souvent écrits à la première personne, et ça c'est très intéressant parce que finalement ça pose toute une question éthique. Si on écrit la vie d'un esclave à la première personne, c'est aussi une façon de se faire une sorte de ventriloque et de voler, d'usurper, de ventriloquize la voix de l'esclave. Et ça c'est quelque chose qui a fait controverse, notamment aux États-Unis, suite à la publication en 1968 d'un roman qui s'appelle The Confessions of Nat Turner, et qui était écrit par un écrivain américain blanc, William Styron. Et donc on peut imaginer toute la controverse que cela a déclenché, le fait qu'un écrivain blanc puisse s'approprier en quelque sorte et voler la voix à la première personne d'un esclave. Et puis on a reproché aussi d'autres choses à ce roman, notamment le fait de brosser un portrait bien peu flatteur de l'esclave, qui dans ce roman-là est une sorte d'anti-héros. Voilà. Mais j'aimerais à présent m'attarder sur un motif récurrent de ces textes, un motif qui nous ramène directement au tableau de Turner, et celui du motif de la mère. En effet, au cœur de tous ces textes, il y a une thématique commune, la mère, et c'est un espace qu'il est très intéressant d'analyser en rapport avec la mémoire. En effet, la mère, c'est ce lieu par excellence de l'oubli, de la dissolution. Pourquoi ? Parce qu'elle engouffre, elle avale, elle invisibilise et qu'elle voue à l'oubli les esclaves qui y périssent. La mère, c'est en quelque sorte une sorte d'anti-mémorial, et c'est par définition ce qui ne peut pas porter les marques de la mémoire, les traces visibles de la mort de ses esclaves. Et pourtant, la mère, et notamment dans l'histoire de la traite et du commerce triangulaire, c'est, comme l'a écrit le poète originaire de Saint Lucia, Derek Walcott, la mère est histoire, une histoire enfouie où ont disparu les esclaves. C'est une histoire sans ruine et donc invisible, et qu'il convient de faire émerger. La mer, c'est aussi ce cimetière qui regorge des corps des esclaves noyés, this dumping ground for the living, comme l'écrit Fred Daguerre. Et donc c'est un espace, ou plutôt un non-lieu, où l'on fait disparaître les esclaves malades en toute impunité. Et là, le terme non-lieu, avec son double sens en français, est très intéressant, puisqu'en français, le terme de non-lieu a un sens à la fois spatial, ce qui n'est pas un lieu, mais un sens juridique, lorsqu'un non-lieu est prononcé, et lorsqu'en droit, quelqu'un n'est pas reconnu coupable de quelque chose. Et ce jeu sur le terme de non-lieu en français, c'est quelque chose de très intéressant, qu'avait déjà relevé avant moi l'anthropologue Marc Auger lorsqu'il parlait des non-lieux de l'hypermodernité. Ces lieux qui, dans le cadre de la traite, ne portent pas de marque visible, qu'on a tendance à pouvoir oublier, et parce qu'on les oublie, c'est en quelque sorte la porte ouverte à tous les débordements éthiques. Voilà. La question se pose alors de savoir comment préserver, entretenir la mémoire de l'esclavage. Faut-il la matérialiser, l'inscrire dans un espace et en quelque sorte céder à la tentation du mémorial, ou bien faut-il s'en remettre à la conscience mnésique de ce qui demeure ? Et puis, ces textes-là posent d'autres questions. La question de la place de du récit d'esclaves dans l'édifice disciplinaire, comme lorsque les historiens se penchent sur les récits d'esclaves et cherchent à déterminer leur authenticité, la méthodologie qu'il convient d'utiliser pour les travailler, le lieu symbolique ou effectif dans lequel il convient de les archiver, et également le statut à leur donner. Est-ce que ce sont des autobiographies, des témoignages historiques, des fictions inspirées de faits réels, et donc comment les lire? Mais cette littérature, elle pose également une autre question, une question plus philosophique qui a trait à ce qu'est la mémoire, à ce qui la fait naître, à ce qui la conserve, à ce qui lui permet de perdurer au-delà de la mort de ceux qui ont vécu les faits. Et je vais essayer de montrer comment cette histoire, dans la littérature du passage du milieu, elle oscille entre une espèce, une extrême précarité liée à la fragilité de la voix et de sa transmission aléatoire, et à la tentation de mémorialiser, de faire un mémorial pour commémorer, pour rendre visible, pour rendre tangible et pour, en quelque sorte, défier le passage du temps. Dans le roman de Fred Deger, dont je vous parlais précédemment, il y a un personnage d'esclave, Minta, qui arrive à survivre. Elle tombe à l'eau, mais elle arrive à s'accrocher à une corde, à remonter à bord du bateau, et elle va survivre à la noyade, contrairement aux autres esclaves. Et à la fin du récit, on la retrouve en train de faire des petites statuettes en bois, et chaque statuette, forcément, est censée commémorer la présence de ces esclaves qui ont été jetés à la mer. Or, un feu prend et consume ces statuettes, un petit peu comme si Fred Deger voulait nous suggérer que finalement s'en remettre à la matérialité de quelque chose n'est pas suffisant. Non, il faut aussi activer une sorte de conscience mémorielle et de prise en charge des discours, sous peine que ces discours finalement finissent par disparaître. Et c'est le sens du passage qui suit. Et Minta, dans ce passage, demande son nom à une esclave sur le point d'être jetée à l'eau. Elle lui dit « Ton nom, dis-moi ton nom ». Et l'autre esclave lui répond « Mais pourquoi, en quoi est-ce que cela veut me sauver ? Va me sauver, je ne t'oublierai pas, d'autres se souviendront de toi ». Et cette oscillation entre les deux, mais également cette piste de la conscience de chacun à se remémorer et à être le dépositaire de la mémoire d'autrui, c'est aussi une piste choisie par l'écrivain Carol Phillips puisqu'il travaille en permanence dans son œuvre le ressac de la mémoire, ce va-et-vient de la mémoire, cette mémoire qui menace toujours d'être perdue et dont nous devons être les dépositaires et dont ces personnages sont très souvent les dépositaires. Donc elle revient dans ses textes sous forme de reprise de textes historiques, comme s'il s'inscrivait lui-même dans une sorte de filiation. Dans son roman Cambridge, il avait repris des passages de textes de l'époque, et dans Crossing the River, comme je le disais tout à l'heure, il s'inspire très fortement de l'une des trames narratives, dans l'une des trames narratives du journal de John Newton. Mais cette question, cette oscillation entre l'extrême précarité de la mémoire et la tentation du mémorial, c'est aussi quelque chose qui a servi de fil conducteur à de nombreux plasticiens, et donc on retrouve cette thématique dans les arts visuels. Et j'ai choisi de vous montrer deux approches qui se font en concurrence. Donc cette approche que j'ai évoquée tout à l'heure avec ce monument, Cap 110, qui a été imaginé par Laurent Vallère et qui est fait de 15 bustes de pierre blanche disposés en triangle, ce qui évoque le commerce triangulaire. Et ces statues regardent vers la mer, le regard baissé, un petit peu comme si finalement elles portaient l'empreinte et la trace de ce qu'on ne peut plus voir, puisque avec ce mémorial, on aurait pu avoir un autre choix, représenter le bateau ou représenter les esclaves. Non, le choix qui a été fait, ça a été celui de représenter le manque laissé chez ceux qui demeurent, la présence spectrale, hein, on sait que les psychanalystes soulignent le fait que le fantôme, c'est une sorte de matérialisation de l'absence et du vide laissé par ceux qui sont partis chez ceux qui restent. Et lorsqu'on regarde ce mémorial, on s'aperçoit de cette esthétique de l'empreinte laissée, et puis aussi de la nécessité d'une vigilance. Ils sont là pour faire acte et se faire les dépositaires de cette mémoire qui aurait pu sombrer à la mer avec les esclaves noyés. Et puis on a souvent dit, enfin certains critiques ont dit à propos de ce mémorial qu'il s'agissait plus d'un anti-mémorial plutôt que d'un véritable mémorial. Et cela renvoie justement au fonctionnement de ce mémorial. Voilà. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, donc que l'on trouve dans les jardins du Luxembourg à Paris, et dont le titre est assez intéressant puisqu'il s'appelle « Le cri, l'écrit ». Donc « le cri » comme le cri qu'on pousse et « l'écrit » comme le fait d'écrire. Et on peut trouver le titre assez étonnant puisque ce qui est représenté, ce n'est pas un visage sur le point de pousser un cri, comme dans une autre œuvre d'art que je vous montrerai, mais des chaînes, les chaînes des esclaves brisées. Voilà. Et le titre est très intéressant puisqu'il résume assez bien toute la problématique de cette littérature du passage du milieu. C'est faire résonner des cris, mais c'est faire perdurer dans l'écrit et dans une forme capable d'en rendre compte, de sédimenter cette mémoire, de la poser, de la figer dans le temps et également de la disséminer. C'est dans ce passage du cri à l'écrit que toute la problématique, finalement, qu'une partie de la problématique peut être résumée. L'autre œuvre qui aurait pu, du coup, s'appeler le cri, de Pélagie Kbagdioudi, et qui représente souvent des visages déformés, avec des bouches très grandes, qui à la fois représentent des visages de gens en train de mourir, mais aussi d'un cri qui ne se fait pas entendre. Fred Wilson, plasticien afro-américain, qui a fait en 1992 cette exposition « Mining the Museum », et il a fait une sorte d'intervention dans un musée où, en marge d'objets qui représentaient l'histoire des États-Unis, il a placé, lui, des objets qui représentent l'histoire de l'esclavage, donc au milieu de cette argenterie qui représente une certaine opulence, et notamment l'opulence des États du Sud, eh bien, il a jugé bon de nous rappeler qu'il y a les fers qui servaient à maintenir les esclaves. Ce chandelier, le chandelier, c'est à la fois une certaine opulence, un certain raffinement, une certaine fragilité aussi, le cristal se casse, mais c'est quelque chose aussi qui représente les lumières et donc the enlightenment, les lumières. Oui, mais les lumières ont lieu à l'époque où on se vante des lumières et de la période des lumières en histoire. C'est aussi un moment où il y a une réalité moins glorieuse qui est celle de l'esclavage. Et puis il a joué aussi sur la juxtaposition de deux couleurs qui est une sorte de hiérarchie raciale, le blanc en haut, le noir en bas, et puis bien sûr la forme triangulaire du chandelier rappelle également l'idée du commerce triangulaire. Avec ces Truth Trophy and Pedestal, on s'aperçoit qu'il y a de grands absents. On a les grandes figures de l'histoire américaine, mais il y a également, de l'autre côté de ce globe doré, les grands absents de l'histoire afro-américaine, dont on attend encore qu'il y ait une monumentalisation et une affirmation de leur présence. Ces chaises, qui pourraient être disposées comme autour d'un feu dans une demeure confortable, sont disposées devant donc cet objet en forme de croix qui en fait servait à attacher les esclaves pour pouvoir les fouetter. Et bien sûr, la forme de la croix est assez éloquente puisque on s'est interrogé aussi sur le fait que ceux qui allaient à l'église pouvaient aussi parfois avoir des esclaves sans que cela ne leur pose problème. Et enfin, je voulais vous présenter le travail d'un autre plasticien, donc d'origine congolaise, Morija Kitenge Banza, donc qui travaille actuellement, qui produit encore ses œuvres d'art très récentes. Donc c'est vous dire à quel point cette thématique, et on parlait tout à l'heure à propos de A.S. Byatt, de ses romans, de cet engouement pour l'histoire de façon générale, mais il y a une sorte de nouvelle vitalité dans les arts plastiques et dans la littérature où on revisite, on apporte une nouvelle perspective sur des épisodes de l'histoire, non pas pour rester dans la lignée de l'histoire officielle telle qu'elle était transmise, mais pour faire émerger d'autres histoires à partir de positions parfois subalternes, parfois minoritaires et souvent tues. Et avec ce bateau, Morija Kitenge Banza, qui s'est... alors, il est d'origine congolaise, mais il a également étudié aux Beaux-Arts de Nantes. Il s'est intéressé au passé de la ville de Nantes comme étant là aussi un port d'où des des bateaux partaient, et donc avec toute une histoire en filigrane qu'on peut lire à propos de cette ville. Et il a imaginé ce bateau qui est fait à partir de traces de café et sur lesquelles il a disposé des cuillères, et ces cuillères représentent des esclaves confinés dans les cales de bateaux. Et pourquoi des cuillères? Parce que les cuillères en argent, c'était un objet qu'on troquait, qui avait une valeur marchande et qui représentait aussi la valeur accordée aux marchandises dans un contexte économique. Et puis je terminerai sur cette installation. Alors, c'est une photo d'une installation qui s'appelle Hymne à nous, et son idée c'était de représenter un peu une chorale sans mettre à chanter. Dans une chorale, il y a une partition, tout le monde suit une partition, mais forcément, les voix ont des volumes sonores différents, on peut avoir un décalage, et donc il s'est filmé une trentaine de fois avec un décalage, un petit peu pour nous donner l'idée que l'histoire, c'est une espèce de partition qu'on suit, mais où il faut faire entendre des voix différentes, des voix dissonantes, faire entendre une sorte de dissonance au cœur de la partition. Et puis, à propos de cette installation, il a écrit: je dirais plutôt qu'elle fait appel à une conscience collective. J'ai mixé des textes extraits des hymnes nationaux congolais, français, belges, ainsi que des extraits du poème de Friedrich von Schiller, dont Beethoven s'est inspiré pour composer l'Ode à la joie, et d'un extrait du discours du roi Léopold II, roi des Belges, quand il envoie les missionnaires au Congo pour la colonisation. J'ai filmé un plan fixe d'une chorale qui se dirige elle-même, sans mettre de cœur, pour dire que c'est à nous, Africains, de décider de nous-mêmes et de dire ce que l'on pense. Je m'inspire de l'histoire pour interroger ce que je vis à la manière et la manière dont je ressens le monde. Et j'ai choisi de terminer sur cette image d'une chorale sans mettre à chanter. In the sheer nakedness of the voice, c'est ça aussi l'idée de cette présence nue, sans artifice, sans enrobage quelconque, faire entendre the sheer nakedness of the voice, tout en restant conscient que la mémoire, c'est quelque chose qui doit faire entendre une dissonance salutaire. Et un petit peu pour boucler la boucle, ça nous ramène à cette phrase que vous avez peut-être pu remarquer dans le roman de Carol Phillips, lorsqu'il parle de « the many-tongued chorus of the common memory ». Il y a « a common memory », mais c'est « a many-tongued chorus ». Je vous remercie.